Bonsoir. Rony Touri, les activités économiques sont à l'arrêt depuis ce jeudi 2 mai sur toute l'étendue du territoire d'Aourou, situé à 260 km au nord de Bounia, en réponse à l'escalade de la criminalité avec le meurtre d'un enfant par des hommes armés la semaine dernière. Cette paralysie est le résultat d'un mot d'ordre de la société civile locale qui décrète 3 jours ville morte en signe de protestation. Cette ville morte intervient alors que 6 groupes armés locaux actifs en Ituri ont levé l'option vendredi 26 avril de participer à la défense de la patrie. Ces milices FRPI, URDPC, BAR, CODECO, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chiniatuma ont révélé leur engagement à Bounia lors de la signature avec le gouvernement congolais d'un protocole d'accord de cessation des hostilités. C'était à l'issue d'un dialogue de 2 jours en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Ces chefs miliciens ont également décidé de cesser immédiatement avec les exactions sur la population civile en Ituri. Ils ont par ailleurs décidé de matérialiser leur adhésion au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Quelle lecture faites-vous du protocole d'accord signé entre le gouvernement et certains groupes armés de l'Ituri pour le retour de la paix dans cette province? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 2 mai 2024. Participe au débat Gracien de Saint-Nicolas Irachad, député national élu de la ville de Bounia. Il est cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Gracien de Saint-Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir tous les auditeurs de la radio Tapi.
Avec moi dans ce studio, Sami Sougabo, président du conseil d'administration du réseau des intellectuels de l'Ituri, voilà, une structure qui œuvre dans l'humanitaire et lutte pour la consolidation de la paix en Ituri. Sami Sougabo, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Et le député Bungi Shabako Kato, député national, élu du territoire d'Irumu en Ituri, les professeurs et spécialistes en théologie politique à l'université Shalom de Bounia et dans plusieurs autres universités du pays et de l'extérieur. Monsieur Kato, bonsoir.
Bonsoir Tony, c'est un plaisir de vous avoir rencontré ce soir.
Merci professeur, vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Jacques Befongé à Malomalo. La sécurité est un domaine régalien de l'État. Négocier avec les rebelles pour solliciter leur désarmement et peut-être intégration dans l'armée n'est pas une action efficace et durable pour maintenir la paix dans cette partie du pays. Ce genre de protocole a déjà montré ses limites. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous trouvez sur la 104.9 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DS TV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, en Ituri, les activités économiques sont à l'arrêt depuis ce jeudi 2 mai sur toute l'étendue du territoire d'Aourou en réponse à l'escalade de la criminalité avec le meurtre d'un enfant par des hommes armés la semaine dernière. Cette ville morte intervient alors que 6 groupes armés locaux actifs en Ituri ont levé l'option vendredi 26 avril de participer à la défense de la patrie. Ces derniers ont pris l'engagement de mettre fin aux hostilités et être prêts à participer à la défense de la patrie comme des réservistes des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue du dialogue de 2 jours entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant représentant le gouvernement de la République, les communautés et des représentants, et plutôt les représentants des miliciens. Marcel Martial, Kizabia Mungu pour le reportage.
C'est le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui a posé sa signature sur ces protocoles d'accord de paix au nom du gouvernement congolais. Les groupes armés locaux FRPI, URDPC, Barcodeco, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chiniatuna, représentés par leurs leaders, ont pris l'engagement de cesser immédiatement avec les hostilités et exactions sans condition sur la population civile, les forces de défense dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. Tous décident de laisser la libre circulation de personnes et leurs biens pour favoriser le retour des déplacés et les rapatriements des réfugiés dans leur milieu. Ces leaders miliciens acceptent de ne plus circuler avec les armes et déporter les indices militaires et policiers. Ils s'engagent également de matérialiser leur adhésion au programme de 2DRCS. Par rapport aux tireurs de ficelles, ces groupes armés locaux promettent de les dénoncer devant les autorités pour qu'ils soient arrêtés. Cependant, ils demandent au gouvernement et à la communauté internationale d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de ces protocoles d'accord pour sa matérialisation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci Kizabiamungu pour ce reportage. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, je rappelle que vous êtes député national, élu de la ville de Bounia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Vous êtes cadre d'ensemble pour la République, parti politique de l'opposition, je l'ai dit. Ville morte dans le territoire d'Arou, sur toute l'étendue du territoire d'Arou. C'est là en réponse à l'escalade de la criminalité avec le meurtre d'un enfant par des hommes armés. La semaine dernière, cette ville morte intervient alors que les groupes armés, 600 au total, ont levé l'option vendredi 26 avril de participer à la défense de la patrie. Comment vous analysez cette situation ou cette controverse, les groupes armés qui signent des accords pour la cessation des hostilités et quelques jours après, on tue en massacre des populations dans le territoire d'Arou.
Bon, je commence par compatir avec toute la population itourienne qui est toujours victime d'atrocités de la part de tous ces éléments qui sont aujourd'hui en train de tuer les civils. Donc mes sincères condoléances, on ne va jamais les dire assez. Kili, vous savez ce qui se passe en Ituri, si jamais on avait à l'époque un gouvernement qui écoutait ses propres députés, je pense qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. J'avais fait beaucoup d'alertes à l'époque que les armes étaient en train de circuler massivement et qu'à un moment donné ces armes risquent de ne plus être contrôlées et que ça allait échapper totalement au contrôle du gouvernement. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, le territoire d'Arou, c'est le seul territoire qui n'a pas été touché par les conflits, mais aujourd'hui, il y a maintenant tendance à ce que ces territoires soient touchés. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des armes qui circulent. Et on a signé des actes d'engagement, de paix. Je suis tout à fait d'accord, parce que nous tous, Ituriens, nous voulons toute initiative qui peut mettre fin à des massacres, à des tueries, des civils. Mais le problème est que les armes circulent tellement qu'on ne sait plus les contrôler. Je crains que ceux qui ont signé aujourd'hui ces accords ne soient pas eux-mêmes à mesure de contrôler les éléments armés qui sont en train de circuler sur l'étendue de la province de l'Ituri, parce que maintenant c'est devenu un système de tuerie, de piller, de pillage, des systèmes en fait où les armes sont détenues illégalement. Ce n'est plus pour des revendications, ce n'est pas pour des actions, des objectifs, mais en fait, il y a des tas d'exactions sous toutes ces formes, parfois sans aucune raison d'être. Donc, il y a aussi des criminalités économiques qui sont associées, et donc c'est un véritable problème. Mais nous saluons quand même le peu d'efforts que cherche à faire le gouvernement pour que la paix revienne en Ituri, mais on se demande, est-ce que Les VPM, Jean-Pierre Bemba a quand même suivi, est-ce qu'il a suivi la procédure pour qu'on puisse aujourd'hui aboutir à un accord de cessation d'hostilité? Et nous pensons que ces accords, effectivement, vont tenir et que ça va nous donner des résultats positifs. Parce que vous savez...
De quelle procédure parlez-vous, Irachan? De quelle procédure parlez-vous?
Je voulais justement développer cette idée de cette façon. Vous savez, quand on parle d'un accord, ça veut dire que c'est un acte juridique qui découle d'un processus de négociation entre des parties. Alors, on sous-entend aujourd'hui qu'il y a une négociation. Bon, moi je suis député national de l'Ituri, mais je ne suis pas informé de tous ces temps qu'il y avait des négociations entre les forces négatives ou les groupes armés avec les gouvernements. Alors, est-ce que ces accords ont eu lieu après des négociations? Comment se sont passées ces négociations? Qui ont été les parties prenantes dans ces négociations? Quand est-ce qu'il y a eu ces négociations? quels sont les compromis ici de ces négociations. Et dans notre cas, il y a des belligérants, mais il y a aussi des victimes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a donné comme promesse à ces belligérants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais les victimes aussi qui sont en train de regarder leur bourreau, qu'est-ce que ces victimes deviennent? Donc, il y a toute une série de questions qu'on doit se poser par rapport à ces accords, et nous pensons que le VPM Bemba va aboutir effectivement avec de bonnes résolutions. Parce que on sait que quelqu'un ne peut pas accepter de renoncer au massacre ou de renoncer à l'activisme d'un groupe des armées comme cela. Donc le gouvernement doit nous dire, nous avons appris qu'il y a eu des membres des groupes armés influents qui sont venus à Kinshasa et ils auraient rencontré les plus hautes autorités de notre pays. Nous avons appris. Est-ce que c'est vrai? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'il y a eu des échanges où la notabilité a été associée? Nous ne le savons pas. Quel a été le communiqué issu de cette rencontre? Nous ne le savons pas. Mais aussi, il faut se mettre à la place des victimes aujourd'hui, quand les victimes voient comment le gouvernement est en train de traiter avec des personnes qui paraissent comme des bourreaux. Il y a aussi l'idée de se demander si aujourd'hui ces accords vont être vraiment des accords qui vont tenir au sein de la communauté étourienne. Donc, nous avons vu aussi qu'on a organisé un dialogue qui, pour moi, n'est pas inclusif, parce que on sait que la notabilité n'a pas participé au maximum, mais surtout, par exemple, les élus légitimes, que ce soit les députés provinciaux, les nationaux, je ne pense pas qu'ils aient participé. Donc, il y a toute une procédure quand même qui doit accompagner les processus de dialogue. Et il faut aussi se poser la question, est-ce que le conflit à Ituri va prendre fin par le dialogue? Est-ce qu'il y a nécessité de dialogue ou il y a d'autres causes aussi dans ce que nous sommes en train de traverser à Ituri? Parce que ici, le gouvernement veut se faire montrer comme un ange, comme si le gouvernement n'a pas de problème. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Ituri, c'est plus la fuite des responsabilités du gouvernement congolais qui ne sait pas recouvrer son autorité de l'État partout sur l'étendue de la province. Donc, je voudrais dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a défaillance totale de la sécurité des citoyens par les forces gouvernementales, il y a défaillance de la justice, il y a défaillance de l'encadrement, il y a surtout la discrimination qui règne dans les systèmes administratifs, qui fait en sorte qu'il y a rebondissement des conflits et parfois il y a des gens qui prennent les armes, bien sûr, ce qui ne s'explique pas sur des massacres contre les civils. Et je vais terminer par dire aujourd'hui que l'état de siège aujourd'hui qui patronne ces négociations à Ituri, c'est composé par des acteurs illégitimes aujourd'hui qui sont à couteau tiré avec les communautés. Vous savez comment ces acteurs d'état de siège sont en train de terrasser les civils et même les leaders communautaires, à commencer par nous les députés. Moi j'ai échappé plusieurs fois au massacre à des tueries, à l'assassinat à Ituri, plusieurs fois à l'arrestation. Il y a eu des propos malveillants contre l'évêque du diocèse de Bounia, mais aussi certains hommes religieux. Il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui sont arrêtés, intimidés par les autorités de l'État de Kiev. Donc dans tout ce climat-là, on ne peut pas avoir quand même une assise qui convient pour les Ituriens. Et aussi, il faut noter que Jean-Pierre Bemba, par exemple, qui patronne aujourd'hui ces négociations, c'est quelqu'un qui est reproché dans l'histoire de l'Ituri, où il paraît comme quelqu'un qui est cité dans plusieurs rapports internationaux, Amnesty International, Human Rights Watch et même les Nations Unies, où on sait qu'il y a le mouvement rebelle qui est passé, les MLC, et qui a aussi commis des exactions.
Et donc, Nicolas,
il faut quand même remonter pour que la course soit bonne.
Merci beaucoup, Gracian Nicolas Irachan. Le dialogue s'est tenu à Bounia, en Ituri. Le gouvernement de la République a pris part à ces deux jours de dialogue. Il y a eu les communautés qu'on a associées et même les représentants des miliciens. Vous auriez souhaité aussi être là. Malheureusement, peut-être que vous n'avez pas reçu l'invitation, mais les communautés étaient présentes. Samy Sougabo, président du conseil d'administration du réseau des intellectuels de l'Ituri, une structure qui œuvre dans l'humanitaire et lutte pour la consolidation de la paix en Ituri. Après cet accord entre le gouvernement de la République et les groupes armés, lueur d'espoir pour la province de l'Ituri.
Merci Kelly. Vous savez, pour moi d'abord, j'ai remercié le chef de l'État qui se bat nuit et jour pour la restauration de la paix en Ituri. Et avant tout, je vais transmettre ces messages de condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées dans les territoires d'Arou. Vous savez, comme le disait notre honorable Irachan, la situation de l'Ituri nous concerne nous tous. Et nous sommes sans ignorer que pour que la paix revienne en Ituri, ça dépend de nous, Ituriens. Moi, je vais aller plus loin pour dire que aujourd'hui, pour que la paix revienne en Ituri, on ne doit pas forcément condamner le gouvernement central ou on ne doit pas condamner le chef de l'État, parce que ce n'est pas au chef de l'État de descendre jusqu'à Bounia pour aller dire voilà, fille Iturien, cessez avec la paix. Nous devons prendre d'abord la conscience que l'Ituri, ça nous appartient, nous, Ituriens. Et si aujourd'hui on arrive à perdre, à mettre l'Ituri dans l'instabilité de la paix, c'est-à-dire nous sommes impliqués dans ça. Parce que seul le gouvernement n'arrivera pas à restaurer la paix ou à consolider la paix. Nous d'abord, Ituriens, fils Ituriens, nous devons prendre conscience que l'Ituri, ça nous appartient. Nous devons nous tenir la main. Parce que lorsque nous allons alors disperser chacun dans son camp, je pense que c'est là où le conflit commence. Parce que nous laissons la porte ouverte à l'ennemi, aux étrangers. Et lorsqu'ils arrivent en Ituri, ils parviennent à collaborer avec le fils et fille de l'Ituri, à manipuler même les enfants de l'Ituri. Mais moi, je pense que si nous, Ituriens, nous sommes unis, et même l'ennemi n'arrivera pas à nous manipuler. Même les étrangers n'arriveront pas à nous manipuler. Et là, nous allons servir en béquille, même le gouvernement central. Et lorsqu'on arrive à condamner les gouvernements, on arrive à condamner le chef de l'État, qui n'arrive pas à stabiliser la paix en Ituri. Vous pensez que c'est vraiment une cause ou une raison valable qu'on peut condamner le chef de l'État? Parce que nous sommes des Ituriens, et c'est à nous de prendre cette décision. On ne veut plus de la guerre. Parce que plus nous sommes dans la guerre...
Les fils et filles de l'Ituri sont divisés. Il y a une forte division au sein de la communauté ituriane.
Lorsqu'on arrive à créer de groupes armés ici et là, ça veut dire quoi? Et lorsqu'on arrive à protéger, chacun arrive à protéger sa communauté. On veut, parce qu'il y a un moment donné en Ituri, vous êtes de tels territoires, vous ne pouvez pas passer dans l'autre territoire. C'est-à-dire on est divisé. Vous êtes Bira par exemple, vous êtes Emma, vous n'arrivez pas à passer dans l'autre territoire. Donc on est divisé. Mais lorsqu'on arrive à comprendre que en faisant de tels actes, notre province, nos territoires sont en réquil, et donc nous devons prendre conscience, nous devons nous signer, abandonner le passé et se pardonner mutuellement et vivre ensemble, je pense que c'est là le début même de la consolidation de la paix.
Alors cet accord signé, est-ce que c'est une lueur d'espoir pour la province? Vous pensez que ça pourrait mettre fin à tous ces conflits ethniques dans la province de l'Ituri?
Madame Kili, permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas la première fois de signer des accords avec le chef des groupes armés ou avec des communautés. Par exemple, il y a Arou, une signature de l'accord, et c'était, je pense bien, c'était au mois de mai, 7 mai 2021. Non, ça c'est le début de l'état 7 mai. L'accord qui a été signé à Arou, il y avait tous les chefs de groupes armés, et même accompagnés par certains éléments de groupes armés. C'était au mois de mai, le 26, le mois de mai, et 1er juin 2023. Il y a eu signature d'un accord. Et nous tous, on s'attendait à ce qu'on finisse avec les hostilités dans notre territoire. Mais chose grave, cet accord n'a pas été respecté. Cet accord n'a pas été respecté. Et voilà encore, la semaine dernière, on a signé encore un autre accord avec le chef des groupes armés, à présence même de vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Alors, moi, je pense que tout cela, comme je le disais dans le message précédent, c'est question de la conscience. La paix, c'est dans la tête. Lorsqu'on arrive à comprendre que non, bien qu'on peut signer les accords, je vous informe que le même jour qu'on signait les accords devant le vice-premier ministre, il y a eu des tueries. Dans la périphérie comme à Kobu, il y a eu des tueries. Dans la même journée, là, on signait des accords. Ce qui veut dire, est-ce que les représentants de certains groupes armés, les chefs de certains groupes armés, est-ce qu'ils informent, est-ce qu'ils mobilisent leurs éléments? Parce que vous êtes sans ignorer que dans les groupes armés, il y a des délinquants, il y a des ceux-là qui ne respectent pas leur chef. Alors, c'est voilà pourquoi je disais que la situation de l'Ituri doit d'abord nous préoccuper, nous, Ituriens, avant même que le gouvernement puisse s'impliquer. Et lorsque le gouvernement viendra s'impliquer, il trouvera déjà que nous sommes déjà entendus. Vous voyez? Et moi, je pense que quand Je vais
mais vous faites quoi au niveau de l'Ituri, vous, enfants de l'Ituri, vous faites quoi pour que la paix règne dans cette province? Quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises pour que la paix revienne dans cette province, pour que les gens vivent en paix?
Oui, en autre niveau, les réseaux des intellectuels de l'Ituri, il y a eu la semaine passée qu'on a tenu une grande assemblée générale, même dans la ville, le chef-lieu de la province de l'Ituri. On a rassemblé tous les jeunes, et il y a même la présence de certaines autorités de la ville. Il y a certains députés, ex-ministres qui préparent cette activité. Et nous sensibilisons les jeunes à ne pas céder à la manipulation. Nous propageons la paix. Nous luttons sur la consolidation de la paix. Et nous, en tant que réseau des intellectuels de l'Ituri, en tant qu'intellectuels, nous devons prendre conscience à propager la paix et à servir en béquille le gouvernement central. Nous, on n'a pas tout le matériel pour propager la paix, mais avec le peu que nous trouvons, nous essayons à mobiliser le jeune à oublier les pensées, à se pardonner pour que la paix revienne en Ituri. C'est là où on a commencé. Et vous êtes, j'en profite de vous informer que le mois prochain, nous serons déjà dans les territoires Anjougou et Aïromo pour parler sur la paix et consolider la paix. Parce que nous devons être pratiques. Les accords qu'on a eu à signer la semaine passée, est-ce que ça va se pratiquer? Est-ce qu'on ça sera en marche? D'une part,
vous avez des doutes?
Bon, en fait, puisqu'on a déjà signé plusieurs accords, est-ce que ces accords seront respectés? Et ça, qu'est-ce qui nous prouve à ce que les chefs des groupes armés vont respecter? Qu'est-ce qui nous prouve? Là, je parle avec un fils de l'Ituri qui a été victime plusieurs fois des atrocités. Et moi, je pense que le gouvernement peut nous aider à mettre une équipe qui sera comme là juste pour suivre, faire des suivis, des respects de ces accords. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut arriver à marcher bien l'Ituri et prendre conscience de ce que nous sommes.
Professeur Bougui Chabako Kiato, député national élu du territoire d'Irumo en Ituri, professeur et spécialiste en théologie politique à l'université Shalom de Bounia et dans plusieurs autres universités du pays et de l'extérieur, professeur, quelle chance accorder à ce énième accord signé entre le gouvernement de la République et certains groupes armés de l'Ituri pour le retour de la paix dans cette province?
Merci Kelly, merci aussi à Modeste Saer et à mes amis qui m'ont précédé. Et j'ai lu beaucoup plus dans chacun d'eux et chacun se demande si cette fois-ci ça va tenir puisque ce n'est pas la première fois. Alors, quelle chance j'accorde? Je crois que chaque dialogue est important. C'est important que les gens aient ensemble pour réfléchir. Et c'est cela la valeur. La réunion qui s'est tenue la semaine passée, c'est pas la semaine passée. Pour moi, je considère le dialogue entre les Ituriens ou tout discours sur la réconciliation comme un voyage. Ça ne doit pas être un événement d'un seul jour. Si nous prenons cela comme un événement d'un jour, ça va tenir, nous serons à paix et c'est fini et les conflits. Donc, je crois là, on se sera trompé. Je crois que c'est facile de se dire, les gens se sont mis d'accord, voici l'acte d'engagement et allons-y maintenant, puisque le plus important pour l'Ituri, c'est quoi? Le plus important pour le moment, c'est que le sang cesse de couler. C'est ça ce que nous voulons. Mais cela n'est que le début, comme je l'ai dit, c'est un voyage, long voyage. Dès que le sang aura cessé de couler, c'est le plus urgent, il faut qu'on se mette et qu'on travaille. C'est qu'on a produire. Et ces conflits, c'est même partagé. Ça a atteint un niveau où ça va nous prendre un peu du temps pour qu'on se parle et qu'on trouve la voie de sortie. Les recherches qui ont été menées ont montré que depuis 1910, puisque c'est là où on situe les débuts du conflit dans le territoire de Ndougou et Irumu, depuis 1910, il y a eu déjà 8 cycles de conflits. Alors, nous disons, après le présent cycle, il y aura un autre cycle si on ne fait pas attention et si on se dit qu'avec les dialogues comme celui qui a eu lieu la semaine passée, tout est fait. Donc,
que nous puissions procéder par des étapes. La première étape, la plus urgente, la plus importante, c'est que l'essence est utilisée. Et c'est ça, je crois, c'est que le VEPM est allé faire, que les groupes armés s'engagent, et que nous arrêtons de verser du sang. Et maintenant, les communautés et les groupes armés, tout le monde, pour un vrai dialogue pour déceler les causes profondes. Il y en a, les causes. Il y en a partout. Demandez à Piton que vous dira, on s'est réunis à telle époque, on a relevé telle cause. On s'est réunis à telle époque, on a relevé telle cause. Tel a fait des recherches sur les conflits en Ituri, voici ce qu'il a dit. Alors, c'est question là qu'on mette tout ceci ensemble, un dialogue sérieux, et que l'on commence maintenant à réfléchir, à résoudre tous les problèmes qui se posent. Dire, bon, nous nous engageons à cesser de nous battre, mais qu'on a touché les vraies causes de ce conflit qui pousse les gens à toujours se battre. Ça fait 8 cycles, comme je l'ai dit, on n'a pas fait grand. Mais moi, j'apprécie le premier pas, la réunion de la fois passée, l'acte d'engagement, c'est que ça aide la population à qu'on arrête de tuer des gens gratuitement. Et la deuxième étape, la plus importante qui va suivre, c'est que les Ituriens se mettent ensemble, comme les amis l'ont dit, dans un dialogue bien préparé, et non pas dans la précipitation. Et pour que chacun puisse parler, comme quelqu'un me l'a dit, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise où est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qui n'a pas passé. Voilà un peu comment j'aborde cette question. Deux étapes, que le temps s'est écoulé, qu'on se mette maintenant pour analyser en profondeur ce conflit, qu'on trouve des pistes de solutions qui sont durables et qui vont arrêter les cycles des conflits qui ne sont que ressources.
Vous l'avez dit vous-même, professeur Kato, que ce n'est pas la première fois qu'on signe ce genre d'accord. Est-ce qu'il faudrait faire confiance, il faudra croire en ces miliciens qui disent avoir vouloir déposer les armes et travailler pour la défense de la patrie? Est-ce qu'il faut leur faire confiance? Parce que plusieurs fois, ils n'ont pas respecté leurs engagements.
Je pense, moi, je suis hésité. Je crois qu'il faut croire. Mais il ne faut pas croire de la manière naïve pour se dire on a fixé des actes d'engagement, il n'y aura plus de problème. Je ne pense pas que ça sera de cette façon, puisqu'on parle des tireurs de ficelles. On parle des gens qui se règlent leurs problèmes entre eux. Il y aura toujours des problèmes par-ci, par-là, mais au moins, si chaque dialogue, chaque acte d'engagement, si on peut nous amener à regarder la même direction, c'est déjà positif. Donc, est-ce que je crois à ce dernier acte d'engagement? Je pense que je voudrais faire confiance à chacun. Je voudrais faire confiance aux citoyens. Je voudrais demander à ce que chacun puisse se dire on n'a rien gagné dans tout ce qui s'est fait. C'est important que nous puissions avancer. Je ne crois pas que ça va arrêter ce problème en une seule comme une baguette magique, mais au moins, ça va faire quelque chose, ça rappelle à ces gens qui prennent des armes pour tuer les autres que tout le monde désapprouve ce qu'ils tentent de faire. En cela, on peut voir une lueur d'espoir. Donc, je ne suis pas pessimiste, je vois plutôt d'un œil positif ce qui se passe.
On va prendre à présent ces nombreux auditeurs qui appellent sur un autre standard. On va mettre en ligne l'auditeur Maurice Boussou, Nyoka, voilà, qui nous appelle de Kinshasa. On va l'écouter, puis on revient dans ce studio pour la suite de l'émission.
Docteur Maurice Nyoka, depuis la ville-province de Kinshasa. À mon humble avis, étant donné que c'est la énième fois que le gouvernement congolais signe un accord de paix avec les groupes armés dans cette partie du pays, donc tous les accords précédemment signés n'ont jamais été respectés par ces groupes rebelles, l'heure n'est plus pour que le gouvernement continue avec des accords qui ne seront jamais respectés, comme ce fut le cas dans le passé. Il est plutôt le moment pour que le gouvernement congolais puisse contraindre ces groupes armés à déposer les armes par la voie des forces à travers nos forces armées en leur donnant les moyens nécessaires.
Gracien de Saint-Nicolas Iratchani, il faut arrêter avec cette affaire de signer des accords avec les groupes armés, selon l'auditeur qui vient de nous appeler. Il faut utiliser la force pour leur demander de déposer les armes.
Madame Kelly, en fait, d'abord je suis en train de répéter parce que notre auditoire n'est pas approprié. J'aurais voulu débattre avec le ministère de la Défense ou le gouvernement qui a organisé la signature de ces accords-là.
Tous nos efforts pour avoir le ministère de la Défense dans cette émission sont restés vains. On a tenté de les avoir, mais malheureusement, ce n'était pas possible, monsieur Gracien de Saint-Nicolas.
Oui, parce que je me sens un peu gêné pour que je ne sois pas tiré vers le bas avec tous les débats que nous avons ici entre Ituriens. En fait, le vrai problème est que on n'a jamais fait des diagnostics par rapport au problème que nous sommes en train de vivre en Ituri. C'est la même chose pour tout ce qui est Est de la République démocratique du Congo. Parce que si on faisait l'analyse approfondie de ce que nous vivons en Ituri, ça pourrait nous donner maintenant des stratégies appropriées pour résoudre. Et de là, on saura est-ce qu'il faut passer par les dialogues, est-ce qu'il faut imposer la paix, est-ce qu'il faut signer un accord. Et donc, l'auditeur qui a posé la question, effectivement, il a aussi raison, mais il n'a pas aussi raison parce que ça dépend des diagnostics qu'on aurait menés et qui auraient donné, en fait, les pistes des solutions par rapport à la solution qu'il faut trouver par rapport à ce qui se passe à la province de l'Ituri. Mais je voudrais quand même rappeler que les problèmes de la d'accord signé ne trouvent pas parfois des solutions, ne sont pas respectés par les gouvernements lui-même. Parce que je suis en train de répéter encore, ici, chaque fois le gouvernement veut attribuer la faute aux autres et oublie ses responsabilités par rapport à ses engagements. Je voulais quand même rappeler aux gens, si aujourd'hui on nous dit que les groupes armés ont signé plusieurs fois, c'est parce qu'effectivement le gouvernement n'est pas à mesure de garantir à ce que les accords soient respectés. Parce que vous êtes dans un scénario, vous êtes dans un milieu dans lequel il faut parcourir des milliers de kilomètres pour rencontrer un policier. Je vous donne l'exemple des 5 territoires de la province de l'Ituri. Combien de véhicules sont affectés pour la police afin d'assurer la sécurité des citoyens? Et un élément qui se balade avec les armes, comment il se sentira contraint de ne pas tirer sur la population civile, de ne pas menacer? Vous trouvez la police est très mal équipée, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de commissariat, il y a par exemple une jungle là, c'est presque totalement dans les mains des groupes armés. Vous trouvez parfois tout, ou presque c'est dans les mains des groupes armés. Donc on a un problème de responsabilité du gouvernement. Allez voir un peu le nombre de militaires que nous avons. Parfois c'est pas suffisant parce que vous allez parcourir des kilomètres où vous ne voyez pas nos forces. Et ces forces, parfois, n'ont pas assez de moyens pour s'engager à protéger la population. Donc, vous ne pouvez pas signer des accords contraignants dans un cadre où vous ne savez pas contraindre ces groupes armés ou ces miliciens à pouvoir déposer les armes. Donc, ici, il ne faut pas dire que c'est un problème entre les Ituriens. Non, c'est le problème des responsabilités de l'État congolais où, par exemple, la justice, elle est mal rendue. Tout le monde sait comment ça se passe avec la justice pour ne pas revenir sur ce que le chef de l'État a dit au sujet de la justice. Et vous savez, par exemple, ce qui fait aussi les problèmes en Ituri, c'est la discrimination qui bat record. L'administration a la discrimination, est basée sur la discrimination. Vous pensez que les gens, naturellement, ils vont accepter tout ça. Donc, il y a des préalables à pouvoir résoudre avant de pouvoir parler de l'accord. Donc, je me résume à 10 ans que l'État devrait imposer son autorité avec une sécurité absolue pour les peuples congolais, dont les citoyens qui vivent en Ituri. L'État devrait s'imposer à ce que la surveillance des frontières soit contrôlée pour que les armes ne traversent pas, pour qu'il n'y ait pas de trafic illicite. L'État devrait s'imposer avec les instruments juridiques, dont la justice, pour que la justice soit équitablement rendue et pour que la population ne se sente pas lésée de ses rangs.
de se rendre la justice elle-même. Donc il y a des préalables.
Merci.
Donc moi je ne voudrais pas quand même aller dans les débats où on est en train d'applaudir les chefs de l'État en fait ici, mais il faut que les choses soient
bien. Chacun donne son avis.
Il y a des bonnes solutions.
Chacun donne son avis, donne sa lecture des faits. Gratien de Saint-Nicolas, vous n'allez pas obliger les gens de dire la même chose que vous, d'aller dans le même sens que vous, je voulais dire. Alors après Kinshasa, on va se rendre dans le sud d'Ubangi pour écouter cet autre auditeur.
C'est de la part de Cédric Linende, depuis Guéménaché Foulé de la province du sud d'Ubangi. À mon avis, cet accord n'a aucun sens puisque la recrudescence des hostilités par les mieux que les accords conclus entre le gouvernement et les groupes armés. Le mieux serait de former nos forces armées, les équiper, afin de maîtriser tous les fauteurs de troubles dans notre pays et de faire régner une paix durable. Les accords ne nous permettront pas à trouver la paix.
Samy Sougabo, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Cédric Lindende qui nous a appelé depuis le sud d'Ubangi? Les accords ne vont pas permettre à l'Ituri de retrouver la paix.
Madame Kiri, vous savez, pour la paix en Ituri, il faudrait savoir que la réussite ne vient pas pour, comme ou appuyer sur le bouton d'une radio. C'est-à-dire, la paix, la réussite de la paix vient petit à petit. Le début que le gouvernement, comme le dit l'honorable Irachan, on n'est pas venu pour faire soit parler ou féliciter ou jeter des fleurs au gouvernement, mais on parle, on donne quand même le point de vue, les analyses. Et nous, en tant qu'église au milieu du village, nous allons dire aux gens que la paix en Ituri n'est pas comme appuyer sur le bouton d'une radio, mais ça viendra petit à petit. Vu les conflits qui a duré, a daté depuis longtemps, je pense que nous devons prendre conscience que, comme je disais dans mon message précédent, c'est notre stabilité. L'initiative de chef de l'État, ce n'est pas une mauvaise initiative. Le vice-premier ministre, il s'est déplacé de Kinshasa jusqu'à l'Ituri. Je venais de suivre aussi une interview de chef de l'État qui l'a promis de l'humain qu'il lui-même va se rendre à l'Ituri. Tout ça soit des initiatives pour la consolidation de la paix. Ben, écoutez, si on est là justement parce que de dire que voilà, le gouvernement ne prend pas sa stabilité,
mais le gouvernement devrait imposer
la
paix, devrait contraindre tous ces groupes armés à pouvoir déposer les armes.
L'imposition de la paix, c'est notre souhait. Et voilà pourquoi nous sommes à l'état de siège. Si l'état de siège est en Ituri, c'est pour imposer la paix.
Alors, mais qu'est-ce que ça donnait comme résultat, l'état des sièges?
Vous savez, ça vous mentir, je suis conscient de ce que je viens de dire. Depuis que l'état des sièges est en Ituri, il est vrai, au départ, ça n'a pas été facile avec le gouverneur général Luboya, mais au moins, il s'est démené. Et moi-même, j'étais en Ituri. Au moins, là, les gens peuvent circuler maintenant, là. Vous allez dans l'autre camp, vous revenez dans l'autre territoire, vous circulez calmement. Donc, le gouvernement de l'état des sièges, il s'efforce au moins de stabiliser la paix. C'est qu'il faut savoir qu'un Ituri, ce n'est pas comme dans d'autres provinces. Un Ituri, ce n'est pas comme vous arrivez, on a
alors que beaucoup d'Ituriens qui nous appellent disent que c'est plutôt un échec, l'état des sièges.
Madame,
dans la province de l'Ituri.
Comme vous venez de dire, chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa façon de balancer les choses. Moi-même qui ne veux pas, j'étais en Ituri le mois passé. J'étais jusqu'à Tchomia, j'étais jusqu'à Irumu, j'étais même en Djougou. Moi qui ai de notre territoire, de notre communauté. Je pense que ce qui est là...
Donc il y a quand même une amélioration.
Il y a quand même une amélioration.
Sécurité.
Il y a quand même une amélioration. Comme je disais, le général Luboya lui seul ne peut pas arriver à consolider la paix. Si nous, la jeunesse ou la population ituérienne, nous ne l'accompagnons pas. Nous devons accompagner parce que c'est notre province. Ce n'est ni la province de l'autre. Ce n'est ni le problème de d'autres autorités, mais ça nous concerne nous. Mais si nous laissons la question sécuritaire seule au général Luboya, vous pensez qu'il peut arriver à faire ça seul?
Et non. Vous pensez qu'il y a des tireurs de ficelles derrière ces groupes armés qui pullulent dans les touris?
Voilà exactement, je voulais chuter par là. Et ça revient aussi à certains politiciens de l'Ituri de prendre aussi conscience quand vous êtes élu député national. Vous êtes de la com et rassembleur. Vous devez prendre conscience à rassembler tous les enfants. Vous êtes national, vous n'êtes pas un député pour un individu ou pour une communauté. Vous êtes député national. Quand avez-vous fait pour réunir les enfants de l'Outaouais? Quand avez-vous fait pour parler de la paix? Est-ce que vous n'êtes pas communautaire? Est-ce que vous ne parlez pas seulement de votre communauté? Et c'est ce qui s'est fait en Outaouais. Certains politiciens tirent des intérêts pour le leur et pour leur communauté. Ils laissent d'autres communautés. Et ce que nous, les intellectuels de l'Outaouais, nous condamnons, c'est là. Lorsque vous êtes député national, vous devez prendre conscience de travailler pour la nation et non de tirer des terrains pour vous-même, comme le fait le chef de l'État. Comme je disais aussi, le chef de l'État seul ne peut pas arriver à le faire. Et si nous ne l'accompagnons pas, voilà.
Jado Nguilima, depuis Bukavu, au Sud Kivu, aimerait aussi donner son point de vue par rapport au sujet de ce soir. On va l'écouter.
Jado Nguilima, à partir de Bukavu en province du Sud-Kivu. La paralysie des activités économiques en réponse au mot d'ordre de la société civile locale qui a décrété 3 journées ville morte à la suite de l'escalade de la criminalité dans les territoires d'Aru en Ituri est une preuve éloquente que le protocole d'accord signé entre le gouvernement et ses quelques groupes armés n'a aucunement résolu les problèmes sécuritaires. Le dialogue de 2 jours entre le gouvernement à travers son VPN à la défense nationale et quelques milices avait pour raison les effets d'annonce pour montrer à l'opinion que les problèmes sécuritaires dans cette partie préoccupent à plus haut niveau les dirigeants du pays. Cette manière de vouloir toujours résoudre les problèmes sécuritaires par voie de dialogue relève de la faiblesse de l'État et favorise la multiplicité d'autres milices. Plus on dialogue avec les milices, plus d'autres milices se créent et moins la sécurité sévit au sein de la communauté.
Professeur Bungi Shabako, réaction. Plus on dialogue avec les miliciens, plus d'autres groupes se créent et moins la sécurité sévit au sein de la communauté. Réaction.
Ah, c'est correct. J'ai entendu l'ami de Bukavu parler de la faiblesse de l'État et j'ai entendu l'ami de Bukavu parler au conditionnel. Le mieux serait de contraindre ces armées. J'ai entendu l'honorable Irstan dire le gouvernement devrait, tout ceci est au conditionnel. La question c'est seulement que faire lorsque tout cela n'est pas possible. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, je crois qu'il est qu'on puisse justement nous-mêmes prendre cette question à bras le corps. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Je reviens encore sur ce que l'honorable Irachan a dit qu'il faut poser le diagnostic. Mais je crois que le diagnostic existe. Puisqu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi les Ituriens sont en train de se battre. Les gens se sont réunis à Pataki, à Bounia, ils ont fait des dialogues, ils ont fait des dialogues intra-communautaires, les communautés entre eux, les dialogues avec ces groupes armés. On a parlé. Je crois que le plus important maintenant, c'est d'accompagner, de réfléchir, de planifier après le premier pas posé par le gouvernement avec le VFM, que la même volonté accompagner l'Ituri puisse continuer, en fait que nous puissions réellement nous asseoir et regarder ce qui se passe. Je vois le danger de toujours encourager pour privilégier les opérations. Je suis moi-même acteur de la paix. Nous avons travaillé pour la paix à l'Ituri. Nous avons vu les dangers. Quand les militaires ont décidé d'aller bombarder Kourou, quand on a décidé d'aller bombarder Ezeker, quand on a décidé d'aller bombarder Nkoumé, ceux qui ont souffert, ceux qui étaient morts, ce ne sont pas ces miliciens. Ces miliciens viennent, ils attaquent, ils partent. Et ceux qui sont morts, ce sont les femmes, les enfants, les vieillards, qui ne sont pas se sauver. Donc je crois qu'il y a une urgence. Moi, j'attends ce dialogue avec l'honorable Irachan. Nous avons été surpris d'apprendre qu'il y a un dialogue à Bounia. On n'a pas été informés. Je vous informe, Thierry, que les caucus des députés, des députés ont une commission. Ils se sont donnés comme mission pendant les 5 heures de travail pour la paix dans leur province. Il y a une commission qui travaille sur cette question de la paix. Nous n'attendons que le gouvernement. Quand le gouvernement sera sorti avec notre document, nous allons aller présenter le, notre pensée et le plaisir que nous aurons tracé à partir de tous les diagnostics qui ont déjà été posés. Donc, je ne pense pas que nous sommes complètement dans le noir. Il y a de bons exemples, très concrets précis, dans le territoire du Rumo. La communauté Hema et Bira, entre 2019-2021, c'était du sang partout. Mais avec beaucoup d'efforts au niveau local, je voudrais dire, aujourd'hui, comme les frères venaient de le dire, il est Bira, il est allé à Kateni, il peut aller à Sota, et les autres peuvent, les autres communautés peuvent se visiter. C'est quand même un exemple à copier, un modèle qu'on pouvait suivre, on pouvait se dire, qu'est-ce qui a fait que les communautés puissent se côtoyer et que les sangs cessent de couler? Bien sûr, on est des humains. Donc, quand on a, il y a un problème à gauche et à droite, on ne peut pas se dire d'emblée que non, c'est le bloc haïtien. Non, pas du tout. Ça ne va pas se faire avec une baguette magique, je l'ai dit. Même ici à Kinshasa, il y a des gens qui meurent. On ne va pas tout mettre cela sur le dos de ces miliciens. Non, non, non. Je pense, pour moi, l'espoir est permis. Le diagnostic a été posé. Le premier pas venait d'être franchi à unième accord. Maintenant, le gouvernement doit s'engager avec le même élan, accompagner un dialogue bien planifié, bien pensé, bien réfléchi, pour que les gens puissent se mettre ensemble. Je crois que nous sommes en train de faire un pas. Nous ne sommes pas dans le noir complètement comme là où on a été. Bien sûr, l'épicentre reste Ndjougou. Mais en Ndjougou, nous devons aussi parler. Parce que quand les gens s'entretiennent en Ndjougou, ce n'est pas toujours côté quoi. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas d'un côté comme de l'autre. Là, je voudrais rappeler ce que le général Liboya, le gouverneur militaire, le dit toujours. Quelquefois, il faut cesser avec de provocation à gauche et à droite pour que nous puissions sincèrement tous pour la paix et que nous puissions marcher ensemble pour la paix. Voilà un peu comment j'aborde cela. Donc, nous ne sommes pas toujours à mettre, bien sûr, c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement devrait, il serait mieux de faire, c'est la faiblesse du gouvernement. Mais comme Samy l'a dit, c'est la responsabilité de chacun. Le premier pas est posé, maintenant que le gouvernement accompagne un dialogue sincère, un dialogue vrai. Puisque si on ne va pas dans ce sens, on peut se reposer, souffler pendant une année, 2 ans, 3 ans, ça va encore rebondir un nouveau cycle. Et le reste, c'est que chaque nouveau cycle est beaucoup plus violent que le cycle qui l'a précédé. Et tout cela continue parce qu'on ne fait pas beaucoup d'attente. On peut réellement se mettre et trouver des solutions profondes pour cette crise profonde qui déchire l'Ito.
Merci, professeur Bungi Shabako. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes à la fin de notre magazine. Gracias de Saint-Nicolas, Irachan. Votre mot de la fin.
Oui, tant que le gouvernement ou le pouvoir en place ne va pas prendre ses responsabilités, il n'y aura pas lueur d'espoir. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que nous sommes liés, population comme gouvernement, à aller travailler ensemble et chacun doit accepter de respecter ses responsabilités et de l'assumer correctement. Et je vais terminer aussi en disant qu'il faut dissocier les phénomènes groupes armés des différentes communautés. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les groupes armés appartiennent à des communautés. Non, il faut dissocier parce que sinon on va accuser à tort et à raison des gens qui parfois sont des innocents. Et il faudra aussi à un moment donné que nous puissions aussi nous respecter à travers les lois du pays. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui ne respecte pas
à la population qui ne respecte pas la loi et qui ne respecte même pas les accords signés. Et ça, c'est très grave parce que je donne l'exemple de l'état de siège aujourd'hui qui n'a plus de base légale parce que je ne sais même pas qui proroge l'état de siège parce que la Constitution, l'article 144, dit c'est l'état de siège une fois les 15 jours. Ce n'est pas à proroger, ça cesse d'exister. Et quel exemple nous donnons quand nous, du gouvernement, nous, du pouvoir, nous ne savons pas respecter les textes légaux? Ça fait tout simplement décevoir la population, j'ai dit.
Merci. Samy Sougabo, votre conclusion.
Je pense que, comme le dit mes prédécesseurs, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé en Ituri, devons prendre considération et devons faire de ça une priorité pour nous. Vous savez, ici, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui se donnent de valeur, qui sont donnés de valeur pour la nation congolaise, la congolaise. Je pense que si le gouvernement a pris des initiatives, a réuni le fils de l'Ituri, fils ituriennes, pour parler au nom de la paix, ça donne de quelque chose. Ça donne dire quelque chose. Au-delà de l'état de siège, le chef de l'État a pris l'initiative, il a envoyé le VPM, Jean-Pierre Bemba, à l'Ituri, pour réunir les gens, pour réunir les fils et filles de l'Ituri. Tout ça, c'est pour chercher la paix.
Bah, le prof dit qu'il faut un vrai dialogue bien préparé, pas celui qui a eu lieu il y a la semaine dernière.
Au-delà des vrais dialogues, je pense que nous devons se prendre conscience. Comme nous parlons dans notre structure Réseau des intellectuels de l'Ituri, nous sommes pratiques, nous sommes sur le terrain. C'est toujours dans le cadre de chercher la paix. Nous sommes en train de servir en béquille le gouvernement. Vous voyez, je pense que le vrai dialogue qu'on est en train de parler, ce n'est pas seulement de réunir les gens, mais ça doit être pratiqué, pratique et non théorique. Vous voyez, je pense que, pour clôturer avec mes mots, je pense que nous, Ituriens, nous devons prendre notre responsabilité. Les autorités, les députés nationaux, les députés provinciaux, vous devez prendre votre responsabilité. Et non servir cette nation comme une boutique pour bomber vos poches. Non, parce que le Congo, l'Ituri, ça nous appartient, nous tous. Allez-y comprendre, dans l'Ituri, dans la ville même de l'Ituri, il y a plusieurs enfants déplacés de guerre qui chôment encore dans des rues de l'Ituri et qui sont des bombes à redressement pour l'Ituri même. Et après, demain, aujourd'hui, on signe l'accord avec le chef de groupe armé. Et demain, à cause des mêmes enfants qui sont dans la rue, vont se transformer en un groupe armé. Et si on n'encadre pas ces enfants-là, quel avenir pour l'Ituri? Quel avenir pour l'Ituri? Et notre suggestion serait que le gouvernement central, que le gouvernement provincial, prenne à responsabilité ces enfants déplacés des guerres. Parce que nous, les ONG, on n'arrivera pas seuls si on n'a pas les appuis du gouvernement. Là, on a traité ces battes ici et là pour encadrer ces enfants-là. Et je pense que même certains parents déplacés de guerre, ils n'arrivent pas même à nourrir certains enfants, alors qu'ils sont sous la responsabilité du gouvernement central.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Samy Sougabo, merci à Pascal Lukusa qui nous suit depuis la chaîne YouTube de Radio Okapi. Il est dans le territoire de Ngandajika. Pascal Edra, voilà, lui nous suit depuis le territoire de Dungu. Voilà. Il est aussi membre du réseau des intellectuels de l'Ituri, Albert Dodé, depuis Mbujimayi. Merci beaucoup. Merci à Abel Boutala, depuis Kolwezi. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission sur la chaîne YouTube de Radio Okapi. Merci à Claude Herry et à Juniolas Moulagi. Merci beaucoup depuis l'ICASI. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.